Ici, Moscou. La pensée à travers les faits. Avec Françoise Compoint.
Il y a à peine quelques jours, M. Georges Soros, que la majeure partie des sources encyclopédiques présente comme un financier milliardaire, investisseur, sociologue et surtout philanthrope, a fait un certain nombre de révélations tout à fait intéressantes. Alors, loin de surprendre, ces révélations confirment toutes les analyses prétendument conspirologiques de ces derniers mois. Alors donc, M. Soros a fait preuve d'une franchise sans précédent lors d'une interview accordée à M. Farid Zakaria. Il s'agit d'une émission diffusée par la chaîne CNN, où il annonce avoir créé, sur le territoire ukrainien, une fondation dont le but était de préparer le coup d'État de février, de contribuer ultérieurement à celui-ci à la formation d'une armée satisfaisant les critères psychologiques, en fait idéologiques pour être plus précise, fixés par le département d'État des États-Unis. C'est donc sans équivoque que le milliardaire américain reconnaît avoir financé l'Euromaïdan qui a conduit à des effusions de sang faussement attribuées au départ au Berkout. Voici un extrait de l'interview en question, Farid Zakaria. Monsieur Soros, on va commencer par l'Ukraine. Il est bien connu que vous aviez financé durant la période des révolutions de 1989 des activités dissidentes et des groupes civils en Europe de l'Est, en Pologne et en Tchéquie. Peut-on affirmer que vous êtes en train de faire la même chose en Ukraine? Réponse de Georges Soros. J'ai en effet créé une fondation en Ukraine avant que cette dernière devienne indépendante de la Russie. Cette fondation n'a pas suspendu son activité depuis lors et a joué un rôle important dans les événements auxquels nous avons récemment assisté. Fin de citation. Alors, toute considération éthique mise à l'écart, notons au passage que M. Soros sert les intérêts de Washington et que c'est son droit. Tendu. Notons également ce petit secret de polichinelle qui est qu'il y a un lien direct entre les activités de ce monsieur et celles de la Fondation nationale pour la démocratie, qui est le supplétif, c'est assez bien connu, de la CIA. De l'International Republican Institute ou de la Freedom House, affublé des plus nobles motifs qui se résument tout au nouvel épouvantail du XXIe siècle, la démocratie genre Pax Americana, ces organisations ont promu et sponsorisé les révolutions de couleur qui ont secoué les anciennes républiques soviétiques. Il aurait dû en être paré de la Russie, par exemple après les manifs de 2011, on se souviendra du premier grand meeting anti-Poutine place Sakharov. Si, demain, la situation économique de la Russie avait été moins stable qu'elle ne l'est, de deux, si le renseignement avait travailler moins efficacement qu'il ne l'avait fait et en 2011 et en avril de l'année en cours lors de ce qu'on pourrait traduire littéralement par la marche pour la vérité, vérité avec une majuscule, dont les participants, pour la plupart solidaires d'une Ukraine qu'ils ne connaissent absolument pas, ont pensé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, que Poutine démissionnerait sur le champ et que l'ensemble de la population adhérerait à leur vérité à eux. Mais voyez-vous, le problème, c'est que la vérité des Nosiques, des Bénédictov, de l'Écho de Moscou et des Igars, de la chaîne télévision Dosht, est assez peu compatible avec la réalité des jours noirs qu'a vécu le Maïdan une fois l'euphorie des premières heures passées. Assez peu compatible également avec les épurations ethniques que vivent en ce moment même Donetsk et Lugansk. Enfin, assez peu compatible avec les énormités de la propagande occidentale qui en fait nourrit bien davantage les jérémiades de l'opposition russe qu'elle ne s'en inspire d'une manière paradoxale. Et en effet, que voyons-nous aujourd'hui ? Soros admet des faits impensables de l'autre côté du miroir si, imaginons-le, pourquoi pas un milliardaire russe avait sponsorisé un coup d'État en France ou aux États-Unis, à Washington, pour ensuite en faire publiquement l'aveu. Mais restons quand même terre à terre. Il est vrai que les Ukrainiens ne portaient pas dans leur cœur Yanukovych, ça personne dit le contraire, c'est absolument vrai. Mais alors, qu'est-ce que M. Soros, fut-il 36 000 fois philanthrope, vient faire dans toute cette histoire? N'aurait-il pas été plus simple de laisser Yanukovych terminer son mandat, qui de toute façon expirait en 2015, et de voter ensuite pour Poroshenko, ou je sais pas moi, pour quiconque, partager ou partagerait les idées de ce dernier? Bien que fatal à l'unité de l'Ukraine, le Maïdan a cela de bon pour la Russie que ses conséquences ont intimidé jusqu'au plus résolu. Des anciens collègues de la fac de philosophie qui pendant très longtemps ont cru qu'il était aussi chic, bon je me prends chic entre guillemets quand même, de clamer des slogans pseudo-politiques que de citer les, on va dire, les prolégomènes kantiens, les hop, ont tout à coup arrêté de fréquenter les meetings anti-Poutine qu'ils se targuaient de fréquenter auparavant. Leurs publications sur Facebook sont tout sauf politiques, la toute récente condamnation de M. Navalny a certes rassemblé un modeste groupe d'oppositionnaires sans plus. Sakharov, manifestement, enfin je veux dire la place, le meeting, place Sakharov s'est essoufflé en même temps que le Maïdan. La mode anti-Poutine est passée comme par magie. Se trouvera-t-il un nouveau noyau dur qui arrivera une nouvelle fois à galvaniser une certaine partie de l'intelligentsia, on va y arriver, en jouant la carte des sanctions et de l'isolement? Eh bien, il est très difficile d'y répondre pour l'heure, même si ce n'est pas exclu, ce n'est pour l'instant pas le cas. Entre-temps, la presse occidentale multiplie ses spéculations en fondant la plupart de ses analyses soit sur des erreurs factuelles, soit sur de fausses interprétations. En voici quelques exemples assez typiques. Le Boeing 777 malaisien a été abattu par les insurgés. Les insurgés sont des terroristes que la majeure partie des habitants du Sud-Est ne soutient pas. La Russie arme systématiquement les forces insurrectionnelles. Poutine mène la politique d'Hitler, etc., etc., etc. On ne demande pas de preuve, puisque Washington le dit, puisque le Parlement européen le répète, c'est comme ça. Et si vous dites le contraire, eh bien, vous êtes à la solde du FSB. Encore merci quand on ne dit pas KGB, mes collègues français étant parfois sujets, on va dire, à de petits accès tout à fait innocents, mais qui sont des petits accès d'anachronisme, quand même. Il suffit de voir le très récent débat qui a opposé Xavier Moreau, un entrepreneur qui publie également pour le site Realpolitik, à Madame Pascale Johannin, qui est directeur général de la Fondation Robert Schuman. Alors là, je peux vous le dire, c'est un véritable chef-d'œuvre. La Russie continue sa politique que je dirais stabilisatrice en déjouant avec brio les pièges de la Maison-Blanche. D'un côté, aux yeux de certains patriotes plus enclins aux décisions émotionnelles, Poutine commet une lourde erreur en se distanciant de la guerre civile dans le sud-est ukrainien. Autre côté, le calme olympien du Kremlin face aux sanctions kafkaïennes de l'Union européenne qui ne font que renforcer les liens de la Russie avec les autres membres du groupe des BRICS, eh bien, contribue à miner l'autorité des États-Unis. En pratique, le résultat ne s'est donc pas fait attendre. L'ONU a exprimé ses doutes quant à l'implication de la Russie dans le conflit ukrainien, inquiète des sanctions infligées à cette dernière par ses collègues européens. Angela Merkel a subitement abandonné leur rhétorique lapidaire. Certains experts occidentaux ont même tendance à croire que cette distanciation allemande de la politique américaine vis-à-vis des États-Unis a commencé un peu avant le début des événements en Ukraine, ce qui expliquerait, selon eux, l'histoire des écoutes de la chancelière par la NSA. Quoi qu'il en soit, le suivisme suicidaire des pays européens dans l'affaire ukrainienne n'a fait que renforcer ce degré de distanciation. S'y ajoutent en plus maintenant les révélations de M. Soros qui illustrent on ne peut mieux les allées et venues de l'establishment américain place Maïdan. Tout comme l'OTAN, le mainstream médiatique n'a donc plus le casus belli qu'il lui faut tant et tant pour boucler la boucle aux frontières de la Russie. En somme, donc, si M. Soros a parlé, c'est que, en réalité, les masques sont définitivement tombés et que Kiev est sur le point d'être abandonné par Washington, ce qui sera plus ou moins clair d'ici le mois de septembre. Et c'était Françoise Compoint sur les ondes de La Voix de la Russie. Au revoir.